Sur France Bleu, Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, bienvenue dans ma France. Il est 12h08 et je vous raconte toute l'actualité jusqu'à 13h. Avec à la une les chiffres de la production de vin dans le monde à son plus bas niveau mondial depuis 1961 à cause, vous l'imaginez bien, des dérèglements climatiques. Les récoltes ont particulièrement souffert en Italie et en Espagne, mais elles progressent en France. La France qui reste le premier pays producteur de vin au monde. On va faire le point dans quelques secondes avec le meilleur vigneron du monde, Gérard Bertrand à Narbonne. Nous sommes aussi en Alsace et dans le vignoble bourguignon. Dans 10 minutes, je reçois sur France Bleu la ministre en charge des entreprises et de la consommation. Le programme de reconquête du commerce rural, Olivia Grégoire nous en parle, elle l'avait annoncé l'an passé, une quarantaine d'ouvertures de commerces plus tard en zone rurale. Eh bien, nous sommes avec elle aussi, tout près de ces commerces de proximité, notamment dans l'Aube et dans les Hauts-de-France. Et puis à 12h30, on parle de nos voitures, voitures électriques, voitures thermiques, voitures neuves ou d'occasion. Est-ce que vous faites avec ou sans? On vous interroge sur le sujet dans votre quotidien. Dites-nous comment vous vivez ces débats sur la fin du moteur thermique et quel choix vous guide aussi. 0810 055 056.
Ma France sur France Bleu. Ici, on parle d'ici.
La météo, on en parle régulièrement, elle nous met à rude épreuve et vous pouvez comprendre facilement combien la nature subit aussi le gel, la pluie ou à contrario la sécheresse et les vagues de chaleur. Le résultat, c'est une production mondiale de vin perturbée en chute de 10% sur 2023. Nous sommes avec le meilleur vigneron du monde, négociant, propriétaire à Narbonne dans le Languedoc. Bonjour Gérard Bertrand.
Bonjour Winnie Bouchard.
Mais je vous le disais, malgré ces dérèglements, bien les récoltes en France progressent à l'inverse de productions qui souffrent en Italie, qui souffrent en Espagne. Comment l'expliquez-vous, Gérard Bertrand ?
Je pense qu'en fait, en France, on a toujours été raisonnable sur les rendements, contrairement à certaines régions du monde qui pratiquent des rendements élevés et qui sont beaucoup plus impactés par le dérèglement climatique que la France. Et ensuite, il y a un peu un effet d'aubaine, il y a une saisonnalité qui fait que, en 2023, les planètes se sont alignées pour qu'on ait une bonne qualité. Mais la première raison est la plus importante.
Et est-ce que vous considérez aussi peut-être que les climats tempérés, c'est notre cas en France, ont cette chance, si l'on veut, il se réchauffe moins vite et de fait, on est moins aride, on est moins sec que l'Italie ou que l'Espagne.
Surtout par rapport à l'Espagne. L'Espagne a un climat beaucoup plus sec que le nôtre. L'Italie est à peu près comparable. Mais par contre, ils ont une culture des vins de table qui est beaucoup plus forte qu'en France où on est plus sur les vins premium. Donc en fait, la qualité, c'est une exigence. Et en France, je pense que c'est le bon moment aussi pour montrer notre savoir-faire.
La France qui reste le premier pays producteur de vin au monde, pour le meilleur vigneron du monde, c'est évidemment une fierté, Gérard Bertrand. On sait bien toutefois que vos métiers sont météo, sont climato-sensibles. Ces derniers jours de gel tardif nous le prouvent encore. Comment avez-vous vécu les choses dans le Narbonnais ?
Ah, écoutez, c'est vrai que, en fait, nous, comme on est tout en bio et en biodynamie, donc on fait des applications, par exemple, de valériane, parce que des fois, ça se joue à un degré près, donc on fait attention. On est en partie équipé aussi de bougies pour essayer de réchauffer un petit peu le sol quand c'est nécessaire. Et puis après, il y a des aléas, c'est-à-dire il y a 2 ans, quand il fait moins 7 degrés, vous pouvez rien faire. Mais ça se joue toujours entre moins 1 et moins 3 degrés, et c'est là où l'homme peut intervenir pour faire les choses. Donc, je dirais que la France a été un petit peu impactée, mais beaucoup moins que ce qu'elle a pu l'être en 2021. Donc, on sera vraiment tranquille à partir du 12 mai, là, à la fin de ce qu'on appelle les seins de glace.
C'est ça.
Donc, il nous reste encore une quinzaine de jours à patienter.
Gérard Bertrand, vous êtes avec nous, négociant propriétaire de domaine viticole dans le Languedoc. Avant de rejoindre la Bourgogne, nous attend Charlotte Millet, qui est spécialiste aussi du vin et qui vous informe régulièrement avec sa chronique Plus belle la vigne. Je voudrais que nous retrouvions quelques secondes en Alsace ou dans certaines parcelles de vigne. Eh bien, les dégâts, Guillaume Chaume, pour le coup, sont assez importants, notamment dans le secteur de Colmar, après ces gels tardifs.
Près de la ligne de chemin de fer, dans cette parcelle, les dégâts sont estimés à 90%. Le gel est passé par là. Cyril Marchal est à la tête du syndicat viticole de Colmar-Roussen.
C'est brun, les pampres commencent à regarder vers le bas, donc ils sont en train de tomber, tout doucement. Ça dessèche. C'est un coin qui est très, très gélif, qui est en bordure de chemin de fer. C'est pas chardonnay qui est assez sensible aussi au gel. Ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur.
Une année de travail qui part dans cette parcelle, l'une des plus touchées sur le banc de Colmar. Elle ne sera sans doute pas vendangée. Ça va entraîner des pertes financières pour le viticulteur concerné.
Au niveau rentabilité de la parcelle, on n'y est pas du tout. Parce que les frais de vendange, se promener entre guillemets pour vendanger quelques kilos, c'est un coût qui est un coût de production qui est beaucoup plus élevé. Hein. Au-delà de ça, ça peut impacter la récolte de l'année prochaine, hein, puisque les bois qui sont brûlés ne repoussent pas correctement.
Heureusement, tout le secteur de Colmar n'est pas dans cet état. Les dégâts du gel restent pour l'instant moins importants qu'il y a 7 ans.
C'est sûr que 2017, c'était flagrant, c'était tout de suite. Le lendemain, les pampres étaient à l'envers, hein, c'était grillé complètement. Je ne sais pas si on est passé très loin de la correctionnelle ou pas, mais voilà. En tout cas, il y a des pertes, ça c'est sûr.
Les viticulteurs alsaciens restent très inquiets jusqu'à la fin mai. Ils redoutent un nouvel épisode de gel qui pourrait compliquer la donne. Ils gardent les yeux rivés sur leur thermomètre et surveillent de près leurs parcelles.
Merci Guillaume pour France Bleu Alsace. L'équilibre fragile, l'adaptation, le système D, vous commenciez de nous en parler. Gérard Bertrand, on va voir ce qui se passe aussi dans les vignes bourguignonnes avec vous, Charlotte Millet. Bonjour Charlotte.
Bonjour Wendy.
Animatrice pour France Bleu Bourgogne avec cette chronique, notamment Plus belle la vigne. C'est encore un peu tôt si on parle des dégâts, là, des derniers jours de gel tardif, pour savoir si les récoltes en Bourgogne ont souffert, beaucoup ou pas, Charlotte.
En fait, dans certains petits terroirs comme l'Aussois, le Châtillonnais ou encore le Couchouet, ce sont des terroirs qui ne produisent pas les stars des vins de Bourgogne. Là, on a eu des dégâts très importants, des pertes importantes. Certains ont perdu 100% de leur production 2024, mais ce sont des terroirs relativement nouveaux. En fait, on a recommencé à faire du vin dans les années 80, après parfois des centaines d'années dans ces secteurs. Mmh. Il y a un vigneron, par exemple, de l'Aussois qui m'a confié avoir conscience que ces terroirs étaient connus dans l'histoire pour geler très fort et que donc nos ancêtres avaient peut-être eu un petit peu raison d'avoir arraché la vigne à cet endroit. Alors c'est vrai que faut quand même noter que malgré ces pertes importantes, il faut rappeler qu'en 2023, c'est vrai, les vendanges ont été extraordinaires en termes de qualité, en termes de quantité. Donc une perte là, maintenant en 2024, ne signe pas du tout l'arrêt de mort des domaines viticoles en Bourgogne.
Et ben on vous en parle justement à l'occasion de ces chiffres publiés par l'Organisation internationale du vin. La production mondiale de vin, perturbée par les sécheresses, par les vagues de chaleur, par le gel précoce ou tardif, a fait chuter cette production donc de 10% l'an passé, alors que la France s'en sort bien, puisque la production en France, à contrario de l'Italie et de l'Espagne, a légèrement progressé l'an passé. C'est aussi ce qui se dégage dans le vignoble bourguignon, ces bons chiffres dans ce contexte, Charlotte ?
Ah oui, le Bourgogne se vend très très bien, il y a une stabilité des finances, et le fait en fait qu'il soit très demandé, ça fait, bon, c'est vrai, augmenter beaucoup les prix, mais ça offre aussi la possibilité au domaine d'investir, de tester aussi des techniques plus respectueuses de l'environnement, et donc d'anticiper les années à risque comme le gel ou la sécheresse. Alors j'ai trois exemples de jeunes vignerons qui réfléchissent à de nouvelles techniques, par exemple à Ladois-Sérigny, le domaine Chevalet vient de construire une cuverie 100% écolo avec des murs en paille pour apporter une climatisation naturelle pendant les grosses chaleurs. À Nuit-Saint-Georges, Jean Marchal replante des arbres fruitiers dans sa parcelle des Perrières Premier Cru pour renforcer le système racinaire des sols et donc améliorer le drainage. Et puis à Marsannay-la-Côte, Édouard Claire plante du seigle dans ses vignes pour ensuite les pailler pendant l'été. Il a même démarré un projet d'irrigation au goutte à goutte pour une toute jeune parcelle. Alors l'idée de cet arrosage au début de la vie de la vigne, c'est vraiment d'améliorer la qualité des racines qui vont pousser plus fort, plus vite, plus profond. Comme ça, plus tard, ces vignes pourront mieux lutter contre la sécheresse et les maladies. Les vins de Bourgogne sont donc loin d'avoir dit leur dernier mot.
C'est très intéressant tout ce que vous nous dites, Charlotte Millet, animatrice pour France Bleu Bourgogne, avec votre chronique Plus belle la vigne. Merci Charlotte. Gérard Bertrand, je pense que cela vous fait réagir. En fait, on comprend que nos cépages français sont en capacité, ici, le disait Charlotte, de mieux investir, de bien s'adapter au fond.
Oui, en fait, il y a une vraie prise de conscience depuis quelques années qu'en fait, il faut faire un vrai travail sur la régénération des sols, les sols vivants, prendre soin de la biodiversité, prendre soin aussi de l'enracinement. Donc, c'est des solutions pour lutter aussi contre le dérèglement climatique. Et en fait, ça c'est très important, et je pense qu'aujourd'hui, en France, on est en avance. Et ensuite, bien sûr, c'est la période estivale qui est la plus préoccupante toujours, c'est-à-dire la période de juillet-août, où en fait, il faut que la plante ait eu un bon approvisionnement en eau pendant le printemps, pour qu'elle souffre pas trop de des hausses de température qui sont là et qui sont indéniables. On le voit bien puisque les dates de récolte progressent depuis 20 ans. Donc on a des challenges, mais vous savez, ça fait 2400 ans qu'on fait du vin en France
et
on va continuer à en faire et on va s'adapter.
Ouais, Gérard Bertrand, je voudrais qu'on accueille ensemble sur France Bleu la ministre en charge des entreprises, de la consommation et du tourisme. Bonjour Olivia Grégoire.
Bonjour Wendy Bouchard et bonjour Gérard Bertrand, contente de vous retrouver par Radio Interposée.
Il se trouve que vous vous connaissez, vous allez peut-être nous expliquer Gérard Bertrand l'un et l'autre, évidemment. Mais avant de nous parler de commerce ruraux, parce que c'est l'objet de votre déplacement, notamment dans l'Aube aujourd'hui, oui. Olivia Grégoire, un mot parce que vous êtes ministre de la Consommation, sur cette production française de vin qui s'en sort bien dans ce contexte, on en parlait, de dérèglement climatique qui perturbe notamment les rendements en Italie ou en Espagne.
Écoutez, j'ai écouté votre sujet Plus belle la vigne avec attention et je pense que Gérard Bertrand est parfaitement légitime pour s'exprimer. Ça fait des années qu'il a fait ce pari et d'ailleurs que sa production est connue, reconnue, il faut le dire, dans le monde entier. Sans flagornerie, il a raison de rappeler que depuis des années, nos vignerons se battent, et lui en tête, pour assurer une qualité des sols, une qualité de la production vigneronne française. 2400 ans d'histoire, oui, on a un savoir-faire particulier, on a des producteurs qui sont extrêmement engagés. C'est donc d'un côté une bonne nouvelle de voir la France rester le premier producteur de vin au monde, là où nos amis espagnols ou italiens voit quand même des chutes importantes, hein, avec des récoltes à -23%, -21%. La France s'en sort avec +4% et 48 millions d'hectolitres. Le vin, c'est au cœur de notre culture, c'est aussi au cœur de notre savoir-faire en matière de gastronomie, sujet qui me tient particulièrement à cœur, pour qu'on dise aussi à nos plus jeunes que ce sont des métiers d'avenir, des métiers au cœur de la réputation et de l'excellence française. Et donc, il y a bien sûr la considération du sujet viticulture au plan agricole, mais aussi au plan culturel, toujours avec modération et avec raison, ça va de soi. Mais c'est un élément très important aussi dans le rayonnement de la France, dans la réputation de la France, et puis aussi dans la richesse de la France, il faut le dire. La gastronomie, au même titre que d'autres sujets dont j'ai l'honneur de m'occuper, au même titre que nos artisans d'art, au même titre que notre mode, ce sont des éléments qui font briller la France dans le monde entier. Donc, chapeau à nos producteurs.
Et j'ajoute à votre liste, Olivia Grégoire, l'œnotourisme, Gérard Bertrand, de plus en plus populaire. 10 millions de touristes l'an passé encore à la découverte des vins, des vignobles français. Ça, c'est un plébiscite aussi pour la filière.
Oui, et je crois que avec la ministre qui est très sensible à ce sujet, il faut travailler pour aller plus loin, parce qu'en fait aujourd'hui, on voit bien que c'est surtout les Européens qui sont en majorité sur le no-tourisme, et il y a vraiment une clientèle à conquérir avec la partie asiatique et l'Amérique du Nord. Et c'est vraiment intéressant aussi parce que les gens qui découvrent les territoires, ils découvrent les vignobles, mais ils découvrent aussi la culture de la France. Les terroirs, les paysages, les bons vins, la bonne gastronomie. Et il y a un vrai tourisme pour ça. Il faut encore qu'on se structure pour qu'on ait encore plus de capacité d'accueil. Mais je crois qu'on peut continuer à avoir le leadership mondial et le renforcer. Si on met les moyens qu'il faut, et je suis sûr qu'on va les mettre.
Merci Gérard Bertrand, vigneron en biodynamie, vous qui possédez notamment le château hospitalier, je rappelle que vous êtes meilleur vigneron du monde du côté de Narbonne, dans le Languedoc. Olivia Grégoire, vous restez avec nous, il est 12h20. Madame la ministre en charge des entreprises, de la consommation et du tourisme, où êtes-vous exactement à midi et que venez-vous de faire, Olivia Grégoire ?
Je suis très précisément dans l'Aube. Je viens de passer une bonne heure au bar-tabac restaurant de Crancey. Et je vais maintenant aller pas loin de Troyes pour parler zone d'activité commerciale, pour promouvoir et surtout féliciter les porteurs de projets qui aujourd'hui rouvrent des commerces dans nos communes rurales. Vous le savez, c'est un sujet qui m'importe. Pour ceux qui nous écoutent, juste donner un chiffre. En 1980, il y avait 25% de communes de France. Non, il y avait 60% des communes de France qui avaient un commerce. Aujourd'hui, 25% seulement des communes de notre beau pays ont des commerces. Donc il y a eu depuis des décennies des fermetures tous les ans, de façon régulière, de commerces, notamment dans les communes rurales. Et donc depuis un an, et encore pendant 2 ans, c'est un message à ceux qui nous écoutent, si vous avez un projet, vous pouvez encore être accompagné financièrement. Le gouvernement accompagne avec des aides qui vont jusqu'à 80 000 euros. La réouverture ou l'ouverture ou la réhabilitation de commerces dans des communes rurales. On peut aussi être accompagné pour ouvrir un commerce itinérant, un food truck ou une épicerie itinérante jusqu'à 25 000 euros. Et donc j'étais ce matin, il y a quelques minutes encore, dans la commune de Crancey. Vous voyez, c'est une petite commune rurale, 700 habitants dans l'Aube, qui a bénéficié de 25 000 euros de subvention pour aménager son bar-tabac-restaurant, qui est le dernier commerce de la commune.
Oui.
Et ce bar-tabac-restaurant va pouvoir renforcer et avoir son activité, avoir une activité de restauration. Donc je suis allé les féliciter au même titre que la commune de Marnay-sur-Seine, 235 habitants, qui a aussi été élue pour bénéficier de subventions pour l'aménagement d'un local commerce multiservice. C'est concret, ça rouvre, et c'est le cas pour 316 commerces dans notre pays depuis un an. Ça veut dire qu'au moment où je vous parle, Wendy Bouchard, plus de 300 commerces vont réouvrir dans les mois qui viennent. Alors, on a encore beaucoup de boulot, ça m'a pas échappé. Il y a des dizaines de milliers de communes. Mais ça va permettre quand même à 215 000 Français, répartis sur 83 départements, de voir un commerce rouvrir dans leur commune, à côté de chez eux.
Oui, vous étiez venu d'ailleurs nous présenter ce programme de reconquête du commerce rural il y a un an plus tard, voilà où nous en sommes. Alors, beaucoup de travail encore en effet, mais déjà une quarantaine de commerces qui ont rouvert tout court, ou qui ont été inaugurés, qui ont été édifiés. Vous étiez donc, vous le citiez, au bar tabac le Guévet, lauréat de ce programme de reconquête du commerce rural, avec un service de restauration. Et c'est toujours une fête dans une commune, évidemment, quand un commerce repart. Voilà pourquoi je voulais que le maire de cette commune s'associe à cet échange. Bernard Berton, bonjour. Vous qui êtes maire de Crancey.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est d'autant plus une fête, monsieur le maire, vous qui avez eu la visite de la ministre Olivia Grégoire il y a quelques instants, que vous connaissez l'équilibre fragile, difficile des commerces de proximité.
Oui, bien sûr. Nous, on a tenu à maintenir ce commerce de proximité. Parce que à côté du commerce bar-tabac, on a une boulangerie et on savait que si le bar-tabac ne rouvrait pas, la boulangerie allait péricliter aussi et je pense qu'elle aurait fermé dans les années qui suivaient.
Oui,
donc pour nous, c'était impératif de maintenir le bar-tabac.
Bien sûr, c'est souvent cet effet domino délétère qu'on comprend bien. Ça veut dire que ce programme de soutien de l'État bénéficie directement à vos administrés, à vos habitants.
Bien sûr, puisque ce que l'aide de l'État nous permet de diminuer l'enveloppe pour la commune et ça renforce notre volonté de vouloir maintenir ce commerce. C'est sûr que la reconnaissance de l'État à travers ce programme est un encouragement pour nous et pour la population.
Et il est encore temps que les mots de Bernard Berton, maire de Crancey, soient diffusés à d'autres collègues maires qui voudraient aussi bénéficier de ce soutien, Olivia Grégoire. Alors, je ne sais pas s'il y a une liste de critères, vous ne pouvez pas nous la dire, exhaustive aujourd'hui, établie pour trouver ces lauréats, mais en quelques mots, voilà, pour ceux qui voudraient encore s'engager dans ce programme. À vos côtés.
D'abord, je veux remercier monsieur le maire parce que c'est toujours un travail d'équipe et monsieur le maire l'a dit, la commune a mis des sous, la mairie s'est engagée financièrement et l'État contribue aussi mais c'est aussi le travail de nos maires et Dieu sait s'ils sont engagés et je le salue parce que je sais que c'était une priorité pour lui et c'est bien normal que l'État vienne aider. Moi, j'ai voulu que cet appel à projet pour le commerce rural, il soit pas trop compliqué et qui soit vraiment à hauteur de communes rurales. Donc déjà, comment on fait si on vous écoute, et je sais qu'ils sont nombreux les auditeurs, vous avez un projet, vous avez une idée, vous tapez en ligne commerce rural et vous allez sur le site web de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Je vous rassure, le lien apparaît très vite si vous tapez commerce rural sur des moteurs de recherche. Point 2, c'est assez souple. Vous pouvez avoir déjà un commerce que vous souhaitez agrandir. C'était le cas du bar-tabac-restaurant de Crancey qui existait déjà, mais qui voulait faire une activité en plus.
Oui.
Donc, vous pouvez candidater. Vous n'avez pas d'activité, vous êtes en reconversion professionnelle, par exemple, et vous avez envie d'ouvrir un commerce, une épicerie multiservice, une boulangerie. Eh bien, on vous aide et ça peut aussi permettre d'acheter les murs, ces subventions. On peut aussi vous aider à réhabiliter. Au-delà d'agrandir, vous avez un commerce vieillissant, vous êtes dans une commune où il y a un espace commercial, mais vieillissant. l'État et cet appel à projet peut permettre aussi de réhabiliter un espace qui est en décrépitude. Donc c'est assez souple. Il ne faut pas forcément être dans une commune qu'il n'y a plus aucun commerce. Vous voyez, le monsieur le maire de Crancey le rappelait, il y a encore une boulangerie à Crancey, mais il était très important de maintenir et d'élargir le bar-tabac restaurant. Vous êtes un maire d'une commune où il reste une épicerie, vous pouvez tout à fait candidater pour ouvrir une boulangerie, une boucherie, un restaurant. Donc c'est assez souple et c'est aussi valable, je veux le dire, parce que ça redevient à la mode et notamment chez nos plus jeunes.
Oui.
Le commerce itinérant, oui. Vous avez une activité de food truck, vous voulez acheter un SUV, un véhicule ou l'aménager avec une cuisinière. Vous pouvez aussi candidater, c'est assez rapide. En quelques mois, vous avez la réponse et les fonds.
Jusqu'à 20 000 euros.
Mois, voilà. Donc, jusqu'à 80 000 euros pour le commerce en dur, jusqu'à 25 000 euros pour le commerce itinérant. Tous les trois mois, nous annonçons des lauréats. Et donc, il y a encore 2 ans de financement. Donc, merci Wendy Bouchard de me permettre de dire via France Bleu que celles et ceux qui nous écoutent, qui ont un projet, faites comme le maire de Crancey, faites comme le bar-tabac que j'ai visité. Envoyez votre dossier, c'est la meilleure façon de voir si vous pouvez être financé. Et on a beaucoup de dossiers qui sont financés.
Encore 2 ans pour bénéficier de ce programme de reconquête du commerce rural. Merci à Bernard Berton, maire de Crancey, qui a vu donc son restaurant, le bar-tabac Le Guévet, s'étendre et se relancer avec un service de restauration. Je voudrais qu'on partage encore un petit exemple d'importance, parce que c'est une fête aussi depuis quelques semaines maintenant dans l'Oise, au café Le QG d'Auchy, qui a ouvert le quelques jours. C'était le 6 avril. Et nous sommes avec la patronne, une patronne heureuse, Noëlla de Arojo. Bonjour Noëlla. Vous êtes avec nous Noëlla? Non, elle n'est pas avec nous, mais bon, elle pourrait nous décrire son commerce. C'est un épicerie-bar multiservice dans la commune d'Auchy. Alors ça, c'est vraiment le concept un petit peu à la mode. Olivia Grégoire, vous l'avez constaté avec votre tour de France. Ce commerce a bénéficié du soutien de l'État. Multiservice, c'est-à-dire que c'est bar, tabac, service postal souvent, épicerie, dépôt de pain. Voilà, c'est un vrai commerce qui recrée du lien dans un village et qui multiplie les activités au fond.
Oui, et puis il y a une chose qu'il faut dire aussi. Enfin, moi j'ai 2 messages en plus à passer. Je me rappelle d'un déplacement il y a quelques mois dans Loir-et-Cher. On avait échangé d'ailleurs avec vous à Mazanger.
Absolument.
C'était une épicerie multiservice. Souvent on me dit, oui mais c'est plus cher d'acheter des produits alimentaires dans ces épiceries. Je veux tordre le cou à ce cliché parce que je me souviens à Mazanger typiquement, les producteurs locaux dans un rayon de 100 km à Chalande, cette épicerie, et donc il y a même des produits bio en circuit court, je me souviens de fruits et de légumes, de poires, de gingembre, qui étaient en termes de rapport qualité-prix plus intéressants et meilleurs en qualité que ce que vous pouvez trouver dans des grandes surfaces. Donc d'abord, c'est pas forcément plus cher parce que c'est approvisionné de près et donc c'est pas forcément plus cher. Point 2, on va être très clair, Wendy Bouchard, toute cette politique au service des commerces dans nos communes rurales ne marchera que si et seulement si les habitants jouent le jeu. Il est très important que quand on voit une épicerie multiservice rouvrir dans sa commune ou un bar-tabac qui s'étend en restauration, la première garantie que ce commerce perdure, c'est que les habitants y aillent, soit pour y faire des courses d'appoint, soit pour y déjeuner parfois le week-end. Mais la première garantie économique de ces commerces, ce sont les habitants.
Absolument.
On a besoin de vous.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vous laisse filer parce que vous n'avez pas fini votre tour de France à la reconquête aussi des zones commerciales. Ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation, Olivia Grégoire, vous étiez avec nous en duplex de l'Aube et nous avons retrouvé Noëlla dans son QG d'Auchy, dans l'Oise, dans les Hauts-de-France, à la tête de cette épicerie-bar multiservice. Bonjour Noëlla.
Bonjour.
Je sais que vous avez bénéficié du soutien de l'État dont nous parlait Olivia Grégoire. Parlez-nous de ce commerce. À quoi ressemble-t-il?
Alors nous, on a recréé un ancien commerce. Enfin, j'ai racheté les locaux d'un ancien commerce qui était existant il y a une quinzaine d'années. Donc on a réhabilité, refait tout à neuf pour pouvoir recréer justement un lieu de convivialité et rassembler les familles, les habitants. Aujourd'hui, où je peux dire que ça a été une réussite dans le sens où on voit l'enthousiasme des gens qui viennent passer le pas de porte, même des gens où je ne pensais pas du tout, des gens où on est une petite commune de 600 habitants, ça crée vraiment un lien. un lien d'échange. Donc on apporte une multitude de services. Hein. Le but c'était de donner le service de proximité à nos habitants et ses alentours.
Oui, et c'est important parce que c'est ce que disait Olivia Grégoire, il faut que ça fonctionne ensemble. Hein. C'est une énergie collective qui fait qu'un commerce fonctionne ou pas. Et donc, d'où le fait de miser sur la convivialité. Alors bon, merci de nous répondre à l'heure du service. Je crois qu'il y a une grosse demande d'apéritifs notamment et ça va aller en s'amplifiant avec les beaux jours. Noëlla, vous êtes prête à la soutenir?
Attendez, excusez-moi, ça a coupé.
Il y a une grosse demande d'apéritifs, notamment à l'approche des beaux jours. Vous êtes prête à soutenir cette demande dans votre épicerie?
Complètement. Et une grande l'apéritif et va avec les petites. Moi, ce que je propose, c'est les petites planches pétri fromage hein, qui plaît énormément. Donc, évidemment qu'on se prépare à tout ça et on est déjà prêt, j'ai envie de dire.
Voilà, vous qui avez été lauréate de ce programme de reconquête du commerce rural. Elle nous en parlait à l'instant, Olivia Grégoire, ministre en charge de la consommation, du tourisme et des entreprises, avec 2 ans encore pour vous candidater si vous le souhaitez aussi. Et je vous rappelle, jusqu'à 80 000 euros d'aide de l'État pour un commerce physique, 20 000 euros, 25 000 euros même, nous disait-elle, pour un commerce itinérant. Merci Noëlla, longue vie à votre café, épicerie, bar, multiservice dans la commune d'Auchy, la montagne dans les Hauts-de-France. Et à tout de suite dans Ma France, on va parler de nos voitures. À quel rythme l'utilisez-vous entre la difficulté de conduire dans les grandes métropoles et le caractère indispensable de l'auto en milieu rural? On parle du thermique, de l'électrique, de la voiture d'occasion, de la voiture neuve. À tout de suite.
Ma France sur France Bleu. Ici, on parle d'ici.
Toute la musique que vous aimez est maintenant disponible partout et tout le temps sur la nouvelle radio musicale en ligne de France Bleu, 100% chansons françaises. 100% chansons françaises. De Slimane à Patrick Fiori, de Sheila à Souchon, d'Hélène Ségara à Maxime Le Forestier. Découvrez 100% chansons françaises à tout moment sur francebleu.fr, sur l'application ICI, ICI et sur l'application Radio France.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Ma France, sur France Bleu, Wendy Bouchard.
Il est 12h34 dans Ma France, merci d'être à l'écoute. Électrique ou thermique, neuve ou d'occasion, dites-nous comment vous composez au quotidien avec ou sans voiture. Comment vivez-vous en tout cas ces débats sur la nécessité de s'en passer? Comment le marché de l'électrique peut relancer l'emploi et l'industrie en France? Nous serons notamment dans les Hauts-de-France, terre d'innovation. Et pour ces sujets, si vous souhaitez échanger avec lui, avec Yves Carra, porte-parole en charge de la communication de Mobilité Club France.
Ma France sur France Bleu. Ça se passe bien chez
mais
vous.
On s'arrête d'abord quelques instants en Gironde pour l'initiative positive du jour. Nous sommes à Bordeaux où une association expérimente depuis le début de l'année une sécurité sociale de l'alimentation. Alors le principe est simple, en échange d'une cotisation de 10 euros par mois en moyenne, 150 étudiants choisis pour le moment perçoivent 100 euros en équivalent qu'ils peuvent dépenser dans des magasins conventionnés. Et les résultats après quelques mois, Sarah Mansoura, sont encourageants.
Carottes et pommes bio, quelques biscuits et du fromage. Autant de produits que Cécile, 21 ans, ne pouvait pas se payer avec son reste à vivre de 50 à 100 euros par mois. Aujourd'hui, elle en cotise 13, elle en reçoit 100.
Ça va être beaucoup de fruits et de légumes, parce qu'avant c'était du ponctuel. Plus de poisson ou de viande, des pâtes de meilleure qualité. Ça réduit, du coup, ça atténue la charge mentale, parce que le budget est quand même assez limité. Mais ça offre une certaine liberté et une normalité en fait.
Derrière ce projet à 200 000 euros, financé essentiellement par des fonds publics, il y a l'association CREPAC. Charlotte Boulet, chargée de mission transition écologique.
Ils découvrent les biocoops, ils découvrent les magasins vrac, tout un tas de produits qui se mettent à cuisiner. Sur les premiers questionnaires, on a relevé que 36% d'entre eux avaient déjà bénéficié de l'aide alimentaire.
Et cette sécurité sociale de l'alimentation, sans conditions de ressources, fonctionne très bien, résume Yannick Lung, coprésident de l'AGEM, la monnaie locale. Gironde.
98% de leurs dépenses se font dans les magasins d'alimentation. Ça montre bien que les étudiants jouent le jeu et n'ont pas de comportement opportuniste. Et le fait qu'ils respectent l'engagement moral, je crois que ça montre qu'on peut leur faire confiance.
L'an prochain, le CREPAC voudrait élargir le dispositif à toute la communauté universitaire en intégrant davantage d'autofinancement.
Et on prolonge ce sujet avec Dominique Nicolas, coprésident de la CREPAC qui promeut cette transition solidaire en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Merci de nous parler de cette opération qui a un objectif, on l'a bien compris, d'abord, c'est lutter contre la précarité alimentaire des étudiants, pour ce qui concerne en tout cas notre exemple, avec ce fonctionnement, c'est un système dont vous avez décidé aujourd'hui sans condition de ressources pour ces étudiants.
Oui, parce qu'en fait, nous essayons d'appliquer les trois principes de ce que l'on appelle la sécurité sociale de l'alimentation, qui est promue par un collectif au niveau national, l'universalité, le conventionnement avec des magasins et des producteurs dont vous venez de parler, oui. Et puis la cotisation. Donc nous essayons d'appliquer ces trois critères, ces trois principes, et effectivement, mais la plupart des étudiants qui expérimentent, évidemment, connaissent des problèmes de financiers.
Évidemment.
Et donc, même s'ils sont boursiers, ils sont très contents de faire l'expérimentation.
Hein. L'aide alimentaire du type Resto du Cœur, indispensable, atteint ses limites aujourd'hui, et c'est une manière aussi de leur venir en aide.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aussi, c'est un travail formidable qui est fait par ces bénévoles, des Restos du Cœur, des Secours Populaires et des autres associations. Mais est-ce que ce sont à des bénévoles de donner à manger à 10 millions de personnes en précarité alimentaire en France? Je crois qu'il faut changer de paradigme, il faut changer vraiment de... faut trouver un système alternatif. Et il faut passer du caritatif vraiment à la responsabilité de permettre à chacun d'avoir la capacité financière d'acheter des produits locaux, bio, de qualité, qui d'une autre manière va aussi lutter contre la précarité économique des producteurs.
Oui, absolument.
Dont on connaît les difficultés actuellement.
C'est un système très intéressant avec une cotisation de 10 euros par mois et une possibilité de percevoir un équivalent de 100 euros dans des magasins conventionnés des produits locaux de bonne qualité. Merci de nous avoir parlé de ce dispositif, Dominique Nicolas, coprésident de la CREPAC avec France Bleu Gironde aujourd'hui. On parle de nos voitures au cœur de notre quotidien avec, pour vous éclairer jusqu'à 13h, Yves Carra. Bonjour Yves.
Bonjour Wendy, bonjour à toutes et à tous.
Porte-parole et chargé de communication pour Mobilité Club France. Alors c'est un sujet, la voiture, dont on parle souvent, et pour se déplacer régulièrement en France, on entend régulièrement le même commentaire. Vous êtes bien gentil avec vos ZFE, vous êtes bien gentil avec promouvoir les transports en commun, mais comme dirait Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, la voiture dans les Hauts-de-France, c'est comme le métro, pour aller au boulot, c'est indispensable. Donc comment on compose avec ça, comment vous composez aussi, vous, avec votre association sur ces débats qui créent parfois une fracture sociale aussi.
Oui, complètement. Et il ne faut surtout pas opposer les modes de déplacement les uns aux autres. On a besoin de tout le monde pour décarboner le transport. Donc, transport en commun. Et souvent, quand on entend, d'ailleurs, quand je vais dans des conférences, on dit, bon, l'intermodalité, il faut changer les habitudes. Ce n'est pas ça. Ils excluent la voiture de cette intermodalité. C'est une erreur. Mmh. Il faut l'inclure dans le trajet. Je vais à un parking relais, je prends peut-être un bus, etc., etc., pour que ce soit confortable, pas trop cher, régulier et sûr. Voilà, n'opposons pas les modes de déplacement les uns aux autres. Gardons bien la voiture à l'esprit.
Oui, on est allé peut-être un peu trop vite en besogne, et on en parlera, si vous le souhaitez, un peu plus longuement. La Cour des comptes au niveau européen, par exemple, émet des doutes très sérieux sur la fin des voitures thermiques à la sortie des usines en 2035. Elle parle de la même chose, hein, question de fracture sociale, de production industrielle, de souveraineté en Europe. Ça veut dire qu'on a, voilà, on a placé un horizon beaucoup trop précoce, si je veux dire.
Moi, je prends le pari, et je le dis dans tous les médias où je vais, en 2035, en Europe, on vendra encore des moteurs thermiques, j'en suis persuadé. Il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, quand il y a des images qui sont très parlantes de certaines places de Paris, où en 20 ans, on est passé des chevaux à la voiture. Mais ça, c'était naturel, c'est l'usage, c'est le consommateur, le français qui a fait le choix. Là, on essaie de nous imposer un choix. Il n'y a pas eu du tout d'étude d'impact. Alors, l'erreur, ça a été de focaliser sur le moteur thermique. S'ils avaient dit, écoutez, les députés européens, dans 30 ans, on aimerait bien, est-ce que c'est possible, se passer du pétrole? Ça, c'est pas mal, parce qu'on aura d'autres alternatives. On n'est pas obligé de reconstruire des voitures. On réunit tous les professionnels, on dit, bah oui, on sait faire, hydrogène, carburant de synthèse, super éthanol, etc., etc. On met tout ça en place, et ça aurait été un espoir plutôt qu'un désespoir, parce que là, on est vraiment dans le désespoir et dans l'inquiétude.
Parce qu'on n'arrive pas à assumer, disons-le clairement, l'alternative, c'est-à-dire aujourd'hui, l'alternative qu'on met en tout cas en lumière régulièrement, c'est la voiture électrique, qui commence quand même à remporter un certain nombre d'adhésions, mais au niveau du marché, c'est quoi? C'est 13% à peu près des voitures en France, du parc automobile, la voiture électrique?
Alors non, de vente, de c'est vente, 13% de vente. Des ventes, c'est à peine 2% du parc automobile. Mais encore une fois, l'électrique, pourquoi pas? Les batteries, pourquoi pas? Moi je dis toujours, aujourd'hui, pour l'instant, c'est pour tourner autour de chez soi, hein, parce qu'en itinérance entre plusieurs villes, ça évolue, bien sûr, mais d'abord, ça coûte cher hein, de faire sa recharge électrique. Faut pas croire que quand on est sur l'autoroute, c'est gratuit. On est à peu près, suivant les sociétés, dans les mêmes prix que le thermique. Faut plus de temps. Est-ce que la borne a la bonne puissance? Est-ce qu'elle fonctionne? Voilà, on est encore dans ce doute. Encore une fois, n'opposons pas les énergies les unes contre les autres et n'opposons pas les modes de transport les uns
c'est
contre
ça.
Les autres.
Il y a
l'électrique
pas de solution miracle.
À 100%, c'est non, ce n'est pas possible. Vous savez, l'électrique, au début du XXe siècle, il y avait plus de voitures électriques, 100% électriques, que de voitures thermiques. Il faut le savoir. Donc, si le thermique, si le pétrole a pris sa place, c'est parce que l'usage a fait que c'était bien pratique, on pouvait déplacer l'énergie. Finalement, il y avait plusieurs pays, on pouvait jouer un peu avec les prix, alors que là, on va être dépendant à 100% des Asiatiques et des Chinois. Donc voilà, c'est une grosse erreur. Je pense qu'elle va être corrigée. Et tant mieux, parce qu'on sortira de ce climat anxiogène.
La Chine, qui reste le premier marché mondial et qui a fait de voitures électriques vraiment.
Ils font des très bonnes voitures, le problème, en plus.
Ouais, au niveau mondial. Vous envisagez peut-être, cela dit, d'acheter une voiture électrique? En tout cas, qu'est-ce qui fait que pour l'instant vous refusez de franchir le pas? On trouve un certain nombre d'arguments que vous venez d'avancer, Yves Cara. Ce sont des Parisiens, une fois n'est pas coutume, que nous sommes allés interroger sur France Bleu.
C'est beaucoup trop cher. Et même au niveau du confort aussi, on va être obligé d'aller se garer un peu plus loin de chez nous pour aller charger. Le jour où on doit faire beaucoup de distance, il faut forcément s'arrêter, faire recharger. Je pense que c'est pas assez pratique encore.
Ouais, l'autonomie, ouais. C'est le risque en fait de tomber en panne.
Dans mon métier de commercial dans l'immobilier, je peux pas me permettre d'attendre un temps de recharge. J'ai besoin que ça aille rapidement, donc c'est vrai que le plein ça prend 2 minutes et au moins c'est réglé. Si jamais on pouvait recharger plus vite et avoir une autonomie qui atteint l'autonomie des véhicules thermiques, ça pourrait devenir intéressant.
Après, chez nous, dans les entreprises maintenant, ils vont commencer à nous imposer l'électrique, donc ça va permettre de goûter pour voir ce que ça donne.
Bon, on se revoit dans quelques temps alors.
Pourquoi pas.
Voilà, la peur de la recharge, Yves Cara, et du manque d'autonomie qui finalement n'ont pas été un frein, parce que les ventes pour l'année passée ne sont pas si mauvaises. Il s'est vendu près de 300 000 voitures neuves électriques en France l'an dernier, pour une part de marché de près de 17%.
Oui, tout à fait.
C'est plutôt
qui a dépassé un petit peu le diesel. Alors tout ça est sous respiration artificielle, avec des bonus. En Allemagne, quand ils ont enlevé toute aide pour les voitures électriques, le marché s'est écroulé. Donc voilà. Bon, encore une fois,
le leasing social est suspendu en France d'ailleurs, face à la demande.
Tout à fait.
Donc on risque finalement.
Oui, alors leasing social et même les aides pour les entreprises pour acheter des voitures 100% électriques, elles ont considérablement baissé, voire complètement été éliminées. Donc
on verra s'il y a un effet aide classique
en
Allemagne.
Il y a d'autres solutions. Le rechargeable électrique et l'hybride rechargeable est très bien. Ça peut être une solution intermédiaire. Donc voilà, le 100% électrique, vous savez, si vous n'avez pas de recharge chez vous, au minimum au travail, moi je ne conseille vraiment pas d'acheter une voiture 100% électrique. Alors, je suis désolé, je vais citer une marque. Tesla mise à part. Pourquoi Tesla? Parce qu'Elon Musk, il a tout compris.
C'est le modèle en poupe d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Mais surtout, il a créé un système de bornes de recharge sûr, puissant, et qu'on pouvait trouver à 100%. Et là, on peut être en itinérance. Alors, c'est pas sur les autoroutes, mais on sort et c'est très bien. On garde sa voiture, on se branche, on boit un café. Il a tout compris parce qu'il a accompagné complètement l'essor de ces voitures avec cette sécurité de dire, je pourrais me recharger et dans un temps qui est donné, contraint et pour pas trop cher.
Alors, voiture électrique, voiture thermique, voiture neuve ou d'occasion, dites-nous comment vous entendez la place de la voiture dans votre quotidien, comment vous vous projetez finalement aussi dans ce sujet sur la mobilité. Il y a néanmoins des entreprises qui veulent favoriser un accès à la voiture électrique pour pas mal de raisons d'ailleurs. Et je voudrais qu'en Normandie, nous partagions votre démarche. Cyril Touchet, bonjour.
Bonjour.
Pour la société Femag, spécialiste de l'emballage, vous êtes en charge du développement commercial et pour vous aussi, la mobilité évidemment est au cœur de l'emploi. Vous avez souhaité promouvoir justement l'électrique au sein de votre société de manière assez intéressante. Racontez-nous le principe, Cyril.
Oui, il y a un an, en fait, on roulait déjà électrique au niveau des commerciaux et de la direction, parce que c'était agréable et très compétitif et intéressant au niveau financier aussi. Puis l'aspect écologique nous intéressait aussi. Et puis, en fait, on voyait nos collaborateurs qui, eux, n'avaient pas la capacité de passer à l'électrique, certains par peur, parce qu'il y a beaucoup de fake news qui inquiètent les gens autour de l'électrique. Par moyen aussi, parce que l'électrique à l'achat aujourd'hui, les petites voitures électriques restent chères. Des voitures du segment C et D sont déjà à des tarifs équivalents, mais plus petits, c'est difficile d'accès. Donc pour des raisons économiques, etc. Et nous, ce qu'on voulait, c'était donner cette capacité à nos salariés de rejoindre cette mouvance, de passer outre les peurs et de faire des économies, parce que c'était à un moment donné, c'était fin 2022, on parlait beaucoup de pouvoir d'achat.
Oui.
Et on s'est dit comment leur apporter un pouvoir d'achat. Et en fait, on a trouvé que en louant des voitures électriques, en leur donnant des voitures électriques en voiture de fonction, c'est-à-dire qu'ils peuvent l'utiliser à titre personnel, sans aucun problème, avec la recharge gratuite à l'entreprise, Et en leur demandant une participation symbolique de 30 euros par mois, ben on leur mettait à disposition une voiture neuve, donc des 208 électriques.
Oui.
Et c'est comme ça que toute l'entreprise, aujourd'hui, tous les salariés roulent électrique et ont une voiture de fonction.
Donc, combien de salariés, en l'occurrence ?
Alors, à l'époque, nous étions 14, et puis bon, on se développe beaucoup. Donc aujourd'hui, on est 21, mais on a commandé des voitures supplémentaires.
Et c'est un investissement, au départ, bien sûr, mais au final, assez rentable pour vous ?
Non, ça reste une charge, évidemment. Quand on était 14 personnes, ça reste une charge pour entreprise de plus de 30 000 euros par an. Donc, il n'y a pas de miracle. À un moment donné, on ne met pas à disposition une voiture pour 30 euros sans que ça coûte à quelqu'un, et donc, en l'occurrence, à l'entreprise. Mmh. Mais c'était vraiment un moyen de donner un boost aussi au niveau pouvoir d'achat.
Oui.
Et après, on s'est dit que, comment on finance, on va essayer de vendre plus, d'être plus performant et de dégager cette marge de manœuvre.
Merci pour cet exemple normand, Cyril Touchet, avec la société FEMAC, qui met donc à disposition, moyennant de 30 euros de loyer par mois pour ses salariés, des voitures de fonction électrique, des 208. Donc merci Marc Française.
Oui. Recharge gratuite en entreprise. Voilà, il a accompagné en fait la voiture, peut-être pas chez chaque personne, parce que s'il y en a qui habitent en appartement, c'est compliqué, mais ils ont la recharge gratuite en entreprise. C'est ce que je disais. À minima, c'est en entreprise et gratuite. Je dis, si pour le week-end, je dois partir et faire 400 km, je vais m'arranger sur un week-end ou deux pour le faire, parce qu'on ne fait pas toujours des grandes distances le week-end. Ça, c'est une bonne utilisation.
Claudio est avec nous, vous êtes à Montpellier, chauffeur de taxi. Bonjour Claudio.
Bonjour.
Et merci d'être à l'écoute de France Bleu.
De rien. Écoutez, je vais mettre un peu les pieds dans les plats. Hein.
Allez-y, on vous écoute.
Ça fait 6 ans que je roule à l'électrique, à 100% électrique, avec une petite Zoé, et j'ai fait ma tournée des 400 km jour, et sans problème. C'est sûr que j'ai dû changer ma manière de travailler. Et c'est-à-dire, je m'arrête pas n'importe où, je prévois une charge, et je prévois de manger à côté de là où il y a une borne de charge, entre midi et deux, et j'arrive à avoir mon complément pour faire ma journée.
Et quand il y a des problèmes à la pompe, vous êtes le plus heureux, Claudio, parce que vous passez entre les gouttes.
Bien sûr que si j'ai la borne à la maison le soir, je vais chez Branche, mais sinon, il n'y a aucun souci. J'ai pas eu tous ces tracas dont vous avez fait part. Et à tel point que je vous roule avec une Zoé quand même, avant dernière génération. C'est d'ailleurs 300 km autonomie. Je viens d'échanger, j'ai fait les tours de tous, et y compris Tesla, mais en qualité-prix, je reviens à la Zoé. Et c'est pas pour être cocorico.
C'est bien de l'être aussi. Non, mais si vous êtes cocorico sur France Bleu, ça nous dérange pas, Claudio. Mais merci de témoigner aussi de cette capacité d'adaptation. Yves Carra
dont
fait preuve, Claudio, qui est chauffeur de taxi à Montpellier. Il fait sa tournée de 400 km par jour avec son autonomie.
Oui, alors effectivement, il faut changer un petit peu ses habitudes. Il faut élargir ses plages horaires parce qu'il faut les temps de recharge aussi. Mais ça marche quand il y a finalement peu de voitures électriques ou juste adaptées par rapport aux bornes électriques. Si un jour, on a 30 fois plus de voitures électriques, il faudrait 30 fois plus de bornes électriques, etc. Voilà, encore une fois, dans ce contexte-là, on peut se débrouiller, et on parle de débrouiller, c'est un challenge quotidien, mais pour tout le monde, c'est pas possible.
Des recharges, merci Claudio, et bonne tournée à vous. Des recharges, des bornes électriques, ça passe par la maîtrise de la production, Yves Carra, on parle du marché français, de la réindustrialisation de la France, on en parlait hier, et du rôle des territoires dans cette dimension, et vous nous rejoignez pour en parler, Frédéric Motte, vous qui êtes conseiller régional délégué à la transition de l'économie régionale dans les Hauts-de-France, bonjour.
Bonjour.
Parce que quand on parle production de batteries électriques, on associe désormais cette image aux Hauts-de-France avec des usines spécialisées dans la fabrication et le recyclage de batteries à Dunkerque, à Douvrin. Vous êtes un territoire vraiment aujourd'hui d'innovation sur la question.
Incontestablement, il y a eu un pari audacieux de Xavier Bertrand avec se dire dès le début, la première usine, nous sommes la première région automobile en France, nous voulons encore être la première région automobile demain. Et donc d'accueillir cette première usine qui était ACC. Et depuis, ce sont 6 usines qui sont en train ou qui vont s'implanter dans les Hauts-de-France. Mais comme vous le disiez à juste titre, il y a à la fois les usines de production de batteries, mais c'est d'être en amont dans les centres techniques et en aval dans toute la filière de recyclage pour qu'un jour, justement, on ait pu aller creuser notre pauvre planète. Et donc bien d'avoir un véritable écosystème à la fois d'innovation et de production, mais cette innovation, on va la retrouver aussi pour le ferroviaire, parce que nous sommes la première région ferroviaire.
Oui.
C'est aussi la mobilité avec le canal Seine-Nord. C'est tout ça qui va créer une région attractive et qui va résolument préparer ces transitions.
Des batteries électriques qui vont être produites chez vous et qui vont d'abord équiper le modèle de la R5 qui sera produite à l'usine de Douai, la 4L qui sera produite à Maubeuge. L'objectif affiché en termes de production, quel est-il, Frédéric Motte ?
Alors, très concrètement, c'est plus de 6 usines, c'est 11 000 emplois, c'est environ plus de 1 million de moteurs électriques qui vont pouvoir être produits dans la région. Donc nous sommes bien conscients, et j'entendais vos auditeurs, tout ça, ça va pas se faire du jour au lendemain, oui. Ça va se faire petit à petit. Mais on sait que la marche vers la neutralité carbone, c'est inexorable, il faut y aller. Et des pays l'ont fait, il y avait votre chauffeur de taxi tout à l'heure, la Finlande, c'est plus de 80% des ventes, en Norvège, c'est plus de 90%. Ils sont pas différents de nous. Donc c'est évidemment des habitudes, des organisations, vous parliez des bornes, oui. Des façons de se déplacer, mais on y va inexorablement, et nous voulons être au rendez-vous pour être justement la région de l'innovation et de la mobilité de demain.
En attendant, Frédéric Motte, j'imagine que comme Yves Carra, notre invité, porte-parole de Mobilité Club France, vous ne souhaitez pas opposer les types de mobilité, alors que sans voiture, dans des communes comme celles que compte votre région, on ne s'en sort pas.
Je trouve que justement les acteurs ou les élus qui veulent opposer les uns aux autres, c'est la pire des solutions. L'ambition que nous avons dans les Hauts-de-France autour de cette notion de transition à laquelle on a donné un nom puisqu'on l'appelle REF3, et c'est de comment on peut rassembler, comment on trouve une ambition commune pour que chacun s'y retrouve. Si c'est pour exclure des territoires, si c'est pour exclure un certain nombre d'habitants ou de salariés, évidemment que ça ne fonctionnera pas.
Oui. Et donc, vous parlez, j'imagine, des zones faibles émissions aussi.
Les ZFE, mais oui. C'est aussi les zones rurales. Oui. Comment on donne justement l'opportunité aux gens de se raccorder, d'acheter leur voiture. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit. Mm. Il faut rassembler, il faut mobiliser. Toute cette transition, nous avons la conviction qu'elle est génératrice de fierté. Je pense aux salariés d'ACC là, qui commencent à produire. Oui. Ils sont fiers de ce challenge technologique. C'est de la fierté pour les habitants de ces territoires. C'est aussi de l'espérance pour notre jeunesse et de l'attractivité. Faire venir des talents dans ces usines, je vous disais, plus de 11 000 emplois qui vont être créés rien que dans les usines de batterie. Mais on pourrait quasiment doubler si on compte l'amont et l'aval. Tout ça, c'est un vrai projet de territoire résolument tourné vers cette ambition des transitions. Il faut les réussir. On n'a pas le choix. Oui, on en voit bien les conséquences actuellement.
Absolument. Merci beaucoup, Frédéric Motte, conseiller régional délégué à la transition de l'économie régionale dans les Hauts-de-France. Cette vallée de la batterie qui participe à la réindustrialisation du Nord et donc à la reconquête aussi de la souveraineté en la matière de la production de voitures. Il parlait des ZFE, monsieur Motte. Ce sont des politiques anti-voiture que vous avez combattues aussi avec Mobilité Club France, qui sont néfastes, en tout cas, et qui commencent à battre de l'aile. Hein. Finalement,
oui,
il y a beaucoup d'allègements de ces dispositifs aujourd'hui.
Oui, allègements qui
face
étaient
face à ces voitures sales, entre guillemets.
Oui, allègements qui étaient reculades, qui étaient prévisibles. C'est ce qu'on annonçait dès le départ, en fonction du taux de renouvellement du parc automobile et de ses ZFE, c'était socialement pas tenable. Et en plus, franchement, ce que ça, et malheureusement, hein, si c'était aussi simple, ce serait génial, ce que ça apporte en matière de diminution de pollution, laissons faire les industriels qui optimisent leur moteur depuis des décennies. C'est là où on gagne le plus, c'est pas en gênant les personnes qui ont des critères 4, 5 et critères 3 de circuler en ville. C'est pas comme ça qu'on gagne le plus. Mais vous savez, avec le Nord, moi je trouve qu'il y a une symbolique fantastique, c'est-à-dire que c'est principalement dans le Nord qu'on extrayait le charbon qui a été l'énergie qui a accompagné l'essor industriel, le boom fantastique qu'on a connu finalement industriel. Et maintenant, on retrouve ça avec les batteries quelque part dans le Nord. Il y a une belle symbolique et finalement, comme les grandes équipes ne meurent jamais, les grands territoires ne meurent jamais dans les énergies.
Ouais. Nous étions avec Claudio tout à l'heure au Standard de France Bleu du côté de Montpellier. Nous voici à côté de Chambéry avec Michel. Merci de prendre la parole. Je crois que vous êtes également confrère de Claudio, donc chauffeur de taxi. Michel, bonjour.
Oui, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tout le monde. Oui, alors je suis chauffeur taxi sur Chambéry, dans la région, et j'ai deux taxis à hydrogène. Très bien. Et nous avons la chance d'avoir un fabricant de station qui est au Bourget-du-Lac, la société Ataway, et puis une station à Chambéry qui fonctionne relativement bien. Alors c'est vrai que nous, on roule à l'hydrogène depuis bientôt 4 ans, là, avec nos deux véhicules, et puis actuellement, tout ce qui est faire le plein en 5 minutes, ça, il n'y a pas de souci. La seule petite critique que j'ai, c'est en cas de soucis mécaniques sur les véhicules, où les temps de réaction des sociétés qui les fournissent sont très très longs. Oui. Autrement, c'est sensationnel comme véhicule.
Et surtout, voilà, et vous vous approvisionnez en local parce que vous avez ces systèmes, cette logistique, Michel. Mais voilà, véhicule à hydrogène, oui. Chauffeur taxi à hydrogène, plébiscité par Michel à Chambéry.
Il y en a également aussi beaucoup à Paris. Alors, la région Rhône-Alpes est vraiment en avance, précurseur sur tout ce qui est hydrogène pour les véhicules captifs des collectivités. Donc, c'est vraiment très, très bien. Et d'ailleurs, la solution à cette crise énergétique sera certainement locale. Production locale, consommation locale. On le voit, on produit l'hydrogène et on le consomme sur place, des grands champs photovoltaïques pour la ville d'à côté. Mmh. C'est un petit peu ce qui se développe actuellement.
On n'oublie pas quand même une chose, parce qu'on a parlé de voitures électriques, voitures à hydrogène, on a parlé de voitures thermiques avec cet horizon un peu précoce. Imaginez qu'à la sortie des usines en 2035, on n'en sortira plus de voitures techniques. Reste que ce qui se vend le plus, 5 millions chaque année, soit 3 fois plus que les véhicules neufs, ça reste le véhicule d'occasion. Yves Carassin, c'est une donnée essentielle qu'il ne faut pas oublier. Je termine par là. Mais...
Oui, le véhicule d'occasion qui vieillit de plus en plus. C'est-à-dire qu'en 3-4 ans, l'âge moyen du parc automobile français a pris 1 an et demi ou 2 ans. Parce que les voitures coûtent de plus en plus cher, que finalement on nous dit qu'il faut acheter des voitures neuves pour ne pas polluer, mais vous avez des grandes marques qui font des communications sensationnelles pour entretenir et garder le plus longtemps possible leur voiture. Ça coûte de plus en plus cher. Donc on se dit, dans ce climat anxiogène, on ne sait pas trop quoi acheter. Moi, à chaque fois qu'on me demande qu'est-ce que j'achète, donc je fais une étude de son usage, etc., etc. Et puis après, quand je dis le prix, je dis, ah bah, tu sais quoi, je vais garder ma voiture encore quelques années, on va voir. Mais l'idée, c'est j'achète une voiture pour 10 ans ou je la garde et puis on verra bien. Donc le parc automobile vieillit effectivement en France.
Et les véhicules d'occasion se vendent même de plus en plus cher, hein, 30 à 40%
bien sûr,
plus cher qu'avant le Covid.
Et les véhicules de plus de 15 ans se vendent, ont beaucoup pris parce que bon, on est dans des gammes d'entre 5 et 10 000 euros. Donc ça reste encore à peu près raisonnable. Et puis on verra comment on les entretient. Oui, bien sûr, le parc automobile, il se vend à peu près un tiers de voitures neuves pour 2/3 de voitures d'occasion.
Et sur le marché de l'électrique de l'occasion, c'est encore un autre sujet, Yves Cara.
Oui, alors il y en a un, y en a un, notamment sur les Zoé. Vous pouvez louer une voiture électrique Zoé pour finalement moins de 100 euros, je crois, hors leasing social, oui. Avec une autonomie KBC. Mais bon, pour tourner autour de chez soi et en faire une deuxième voiture pour les enfants et le quotidien, pourquoi pas, c'est très bien, si on a une recharge à domicile.
Merci de nous avoir accompagnés, cher Yves Cara, porte-parole et chargé de communication pour Mobilité Club France. Merci à vous, Michel et Claudio, notamment au Standard. Et bien, bonjour à tous les taxis qui nous accompagnent aussi et qui nous écoutent régulièrement. A tout de suite sur France Bleu, chers amis. Merci. Tout de suite avec l'ami Willy Rovelli et sa tribu. Salut Willy.
Bonjour, ça va? Wendy, ça va?
Ouais, très bien. Vendredi,
bon, c'est youpi la vie. Voilà, les auditeurs nous appellent et nous racontent leur moment youpi, le truc sympa du moment. Ça fait toujours plaisir à écouter.
Et voilà. Vous pouvez réagir 0810 055 056. À tout de suite, Willy.
À 19h, toute la semaine, toute l'actu musicale est sur France Bleu. Dans Décibels.
Salut tout le monde!
Émilie Mazoyer.
Je vais essayer de prendre l'accent québécois. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde entier. C'est pas mal, mais je peux encore réviser d'ici ce soir et l'arrivée de Cœur de Pirate. Oui, c'est elle, l'invitée de Décibels. Elle vient nous annoncer une série de concerts qui vont couronner ses 15 ans d'amour avec le public français.
Décibels, seulement sur France Bleu, chaque soir dès 19h. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu.
Merci d'être à l'écoute de France Bleu. C'est votre premier grand média de proximité. Vous êtes fidèles et c'est bien. Voici l'info car il est 13h. Je vous donne rendez-vous lundi dans Ma France à partir de midi. Très belle journée à vous.